Chapitre 9. Des obstacles que le gouvernement a rencontrés pendant la première année de la Restauration. Nous dirons les obstacles que le ministère de la Restauration avait à surmonter en 1814. Et nous ne craindrons pas d'exprimer notre avis sur le système qu'il fallait suivre pour en triompher. Certes, le tableau de cette époque n'est point encore étranger au temps actuel. La France tout entière était cruellement désorganisée par le règne de Bonaparte. Ce qui accuse le plus ce règne, c'est la dégradation manifeste des lumières et des vertus pendant les 15 années de sa durée. Il restait, après le jacobinisme, une nation qui n'avait point pris part à ses crimes. Et l'on pouvait considérer la tyrannie révolutionnaire comme un fléau de la nature sous lequel on avait succombé, mais sans s'avilir. L'armée pouvait alors se vanter encore d'avoir combattu seulement pour la patrie, sans aspirer à la fortune, ni au titre, ni au pouvoir. Durant les 4 années directoriales, on avait essayé un gouvernement qui se rattachait à de grandes pensées, et si l'étendue de la France et ses habitudes rendaient cette sorte de gouvernement inconciliable avec la tranquillité générale, au moins les esprits étaient-ils électrisés par les efforts individuels qu'excite toujours une république. Mais, après le despotisme militaire et la tyrannie civile fondée sur l'intérêt personnel, de quelle vertu pouvait-on trouver la trace dans les partis politiques dont le gouvernement impérial s'était entouré? Les masses, dans tous les ordres de la société, soldats, paysans, gentilshommes, bourgeois, possèdent encore de grandes et belles qualités. Mais ceux qui se sont mis en avant dans les affaires présentent, à quelques exceptions près, le plus misérable des spectacles. Le lendemain de la chute de Bonaparte, il n'y avait d'actifs en France que Paris, et à Paris que quelques milliers de solliciteurs demandant de l'argent et des places au gouvernement, quel qu'il pût être. Les militaires étaient, et sont encore, ce qu'il y a de plus énergique dans un pays, où pendant longtemps il n'a pu briller qu'une vertu, la bravoure. Mais ces guerriers, qui tenaient leur gloire de la liberté, devaient-ils porter l'esclavage chez les nations étrangères? Ces guerriers, qui avaient soutenu si longtemps les principes de l'égalité sur lesquels la Révolution est fondée, devaient-ils se montrer, pour ainsi dire, tatoués d'ordres, de rubans et de titres que les princes de l'Europe leur avaient donnés pour échapper aux tributs qu'on exigeait d'eux? La plupart des généraux français, avides des distinctions nobiliaires, troquaient leur gloire, comme les sauvages, contre des morceaux de verre. C'est en vain qu'après la Restauration, tout en négligeant beaucoup trop les officiers du second rang, le gouvernement a comblé de grâce les officiers supérieurs. Du moment que les guerriers de Bonaparte voulaient être des gens de cour, il était impossible de tranquilliser leur vanité sur ce sujet, car rien ne peut faire que des hommes nouveaux soit d'une ancienne famille, quelque titre qu'on leur donne. Un général tout poudré de l'ancien régime fait rire les vieilles moustaches qui ont vaincu l'Europe entière. Mais un chambellan, fils d'un bourgeois ou d'un paysan, n'est guère moins ridicule dans son genre. L'on ne pouvait donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, rallier sincèrement la nouvelle cour à l'ancienne, et l'ancienne même devait avoir l'air de mauvaise foi, en voulant rassurer à cet égard les inquiétudes avisées des grands seigneurs créés par Bonaparte. Il était également impossible de donner une seconde fois l'Europe à partager à ses militaires, que l'Europe avait à la fin vaincue. Et cependant, il se persuadait que le retour de l'ancienne dynastie était la seule cause du traité de paix qui leur faisait perdre la barrière du Rhin et l'ascendant en Italie. les royalistes de la « seconde main », selon l'expression anglaise, c'est-à-dire ceux qui, après avoir servi Bonaparte, s'offraient pour mettre en vigueur les mêmes principes de despotisme sous la Restauration. Ces hommes, ne pouvant inspirer que le mépris, n'étaient propres à conduire que des intrigues. Ils étaient à craindre, disait-on, si l'on ne les employait pas. Mais ce dont il faut se garder de plus en politique, c'est d'employer ceux qu'on redoute. Car il est bien sûr que, démêlant ce sentiment, ils serviront, comme on se sert d'eux, d'après l'alliance de l'intérêt, qui seront de droit par l'adversité. Les émigrés attendaient des dédommagements de l'ancienne dynastie pour les biens qu'ils avaient perdus en lui restant fidèles. Et certes, à cet égard, leur plainte était naturelle. Mais il fallait venir à leur secours sans porter atteinte en aucune manière à la vente des propriétés nationales, et leur faire comprendre ce que les protestants avaient compris sous Henri IV. C'est que, bien qu'ils eussent été les amis et les défenseurs de leur roi, ils devaient consentir, pour le bien de l'État, à ce que le monarque adoptât les intérêts dominants dans le pays sur lequel il voulait régner. Mais les émigrés ne conçoivent jamais qu'il y a des Français en France, et que ces Français doivent compter pour quelque chose, voire même pour beaucoup. Le clergé redemandait son ancienne existence, comme si 5 millions de propriétaires dans un pays pouvaient être dépossédés, quand même leur titre de propriété ne serait pas consacré maintenant par toutes les lois ecclésiastiques et civiles. Certainement la France, sous Bonaparte, a presque autant perdu sous le rapport de la religion qu'en fait de lumière. Mais est-il nécessaire que le clergé soit un corps politique dans l'État et qu'il possède des richesses territoriales pour que le peuple français reprenne des sentiments plus religieux? D'ailleurs, lorsque le clergé catholique exerçait un grand pouvoir en France dans le XVIIe siècle, il fit révoquer l'édit de Nantes. Et ce même clergé, dans le XVIIIe siècle, s'opposa jusqu'à la Révolution aux propositions de M. de Malesherbes pour rendre l'état civil aux protestants. Comment donc les prêtres catholiques, s'ils étaient reconstitués en ordre de l'État, pourraient-ils admettre l'article de la charte qui proclame la tolérance religieuse? Enfin, la disposition générale des esprits est telle qu'une force étrangère pourrait seule faire supporter à la nation le rétablissement de l'ancienne existence des ecclésiastiques. Il faudrait pour un tel but que les baïonnettes de l'Europe restassent toujours sur le territoire de France. Et ce moyen ne ranimerait sûrement pas l'attachement des Français pour le clergé. Sous le règne de Bonaparte, on n'a bien fait que la guerre, et tout le reste a été sciemment et volontairement abandonné. On ne lit presque plus en province, et l'on ne connaît guère les livres à Paris que par les journaux, qui, tels que nous les voyons, exercent la dictature de la pensée, puisque c'est par eux seuls que se forment les jugements. Nous rougirions de comparer l'Angleterre et l'Allemagne avec la France sous le rapport de l'instruction universelle. Quelques hommes distingués cachent encore notre misère aux yeux de l'Europe. Mais l'instruction du peuple est négligée à un degré qui menace toute espèce de gouvernement. S'ensuit-il qu'on doive remettre l'éducation publique aux prêtres exclusivement? Le pays le plus religieux de l'Europe, l'Angleterre, n'a jamais admis une telle idée. On n'y songe ni dans l'Allemagne catholique, ni dans l'Allemagne protestante. L'éducation publique est un devoir des gouvernements envers les peuples, sur lequel ils ne peuvent prélever la taxe de telle ou telle opinion religieuse. Ce que veut le clergé en France, ce qu'il a toujours voulu, c'est du pouvoir. En général, les réclamations qu'on entend au nom de l'intérêt public se réduisent à des ambitions de corps ou d'individus. Se publie-t-il un livre sur la politique ? Avez-vous de la peine à le comprendre ? Vous paraît-il ambigu, contradictoire, confus ? Traduisez-le par ces paroles. Je veux être ministre. Et toutes les obscurités vous seront expliquées. En effet, le parti dominant en France, c'est celui qui demande des places. Le reste n'est qu'une nuance accidentelle à côté de cette uniforme couleur. La nation, cependant, naît et ne peut être de rien dans ce parti. En Angleterre, quand le ministère change, tous ceux qui remplissent des emplois donnés par les ministres n'imaginent pas qu'ils puissent en recevoir de leurs successeurs. Et cependant, il ne s'agit entre les divers partis anglais que d'une très légère différence. Les Tories et les Whigs veulent tous les deux la monarchie et la liberté, quoiqu'ils diffèrent dans le degré de leur attachement pour l'une et pour l'autre. Mais, en France, on se croyait le droit d'être nommé par Louis XVIII parce qu'on avait occupé des places sous Bonaparte. Et beaucoup de gens qui s'appelaient patriotes trouvaient extraordinaire que le roi ne composât pas son conseil de ceux qui avaient jugé son frère à mort. Incroyable démence de l'amour du pouvoir. Le premier article des droits de l'homme en France, c'est la nécessité pour tout Français d'occuper un emploi public. La caste des solliciteurs ne sait vivre que de l'argent de l'État. Aucune industrie, aucun commerce, rien de ce qui vient de soi ne leur semble une existence convenable. Bonaparte avait accoutumé de certains hommes, qui se disaient la nation, à être pensionnés par le gouvernement. Et le désordre qu'il avait mis dans la fortune de tout le monde, autant par ses dons que par ses injustices, ce désordre était tel qu'à son abdication un nombre incalculable de personnes, sans aucune ressource indépendante, se présentaient pour toutes les places, à la marine ou dans la magistrature, au civil ou dans le militaire, n'importe. La dignité du caractère, la conséquence dans les opinions, l'inflexibilité dans les principes, toutes les qualités d'un citoyen, d'un chevalier, d'un ami de la liberté, n'existent plus dans les actifs candidats formés par Bonaparte. Ils sont intelligents, hardis, décidés, habiles chiens de chasse, ardents oiseaux de proie. Mais cette intime conscience qui rend incapable de tromper, d'être ingrat, de se montrer servile envers le pouvoir et dur pour le malheur. Toutes ces vertus qui sont dans le sang aussi bien que dans la volonté raisonnée étaient traitées de chimères ou d'exaltations romanesques par les jeunes gens mêmes de cette école. Hélas, les malheurs de la France lui rendront de l'enthousiasme. Mais, à l'époque de la Restauration, il n'y avait presque point de vœux décidément formés pour rien, et la nation se réveillait à peine du despotisme qui avait fait marcher les hommes mécaniquement, sans que la vivacité même de leurs actions pût exercer leur volonté. C'était donc, répéteront encore les royalistes, une belle occasion pour régner par la force. Mais, encore une fois, la nation ne consentait à servir sous Bonaparte que pour en obtenir l'éclat des victoires. La dynastie des Bourbons ne pouvait ni ne devait faire la guerre à ceux qui l'avaient rétablie. Existait-il un moyen d'asservir les esprits dans l'intérieur quand l'armée n'était point rattachée au trône et que, la population étant presque toute renouvelée, depuis que les princes de la maison de Bourbon avaient quitté la France, il fallait avoir plus de 40 ans pour les connaître. Tels étaient les éléments principaux de la Restauration. nous examinerons en particulier l'esprit de la société à cette époque, et nous finirons par le tableau des moyens qui, selon nous, pouvaient seuls triompher de ces divers obstacles. Chapitre 10 De l'influence de la société sur les affaires politiques en France. Parmi les difficultés que le ministère avait à vaincre en 1814, il faut mettre au premier rang l'influence que les salons exerçaient sur le sort de la France. Bonaparte avait ressuscité les vieilles habitudes des cours en y joignant de plus tous les défauts des classes moins raffinées. Il en était résulté que le goût du pouvoir et la vanité qu'il inspire avaient pris des caractères plus forts et plus violents encore dans les bonapartistes que dans les émigrés. Tant qu'il n'y a pas de liberté dans un pays, chacun recherche le crédit, parce que l'espoir d'obtenir des places est l'unique principe de vie qui anime la société. Les variations continuelles dans la façon de s'exprimer, le style embrouillé des écrits politiques, dont les restrictions mentales et les explications flexibles se prêtent à tout, les révérences et les refus de révérences, les emportements et les condescendances, ont pour unique but le crédit. Et puis le crédit, et toujours le crédit. De là vient qu'on souffre assez de n'en a pas avoir, puisqu'on n'obtient qu'à ce prix les signes de la bienveillance sur la figure humaine. Il faut beaucoup de fierté d'âme et beaucoup de constance dans ses opinions pour se passer de cet avantage, car vos amis eux-mêmes vous font sentir ce que vaut la puissance exclusive par l'empressement qu'ils témoignent à ceux qui la possèdent. En Angleterre, le parti de l'opposition est souvent mieux reçu en société que celui de la cour. En France, on s'informe pour inviter quelqu'un à dîner, s'il est en faveur auprès des ministres, et, dans un temps de famine, on pourrait bien refuser du pain aux hommes en disgrâce. Les bonapartistes avaient joui des hommages de la société pendant leur règne, tout comme le parti royaliste qui leur succédait, et rien ne les blessait autant que de n'occuper qu'une place très secondaire dans les mêmes salons où jadis ils dominaient. Les hommes de l'Ancien Régime avaient de plus sur eux l'avantage que donne la grâce et l'habitude des bonnes manières d'autrefois. Une jalousie constante subsistait donc entre les anciens et les nouveaux titrés. Et dans les hommes nouveaux, des passions plus fortes étaient réveillées par chacune des petites circonstances que les prétentions diverses faisaient naître. Le roi, cependant, n'avait point rétabli les conditions qu'on exigeait sous l'Ancien Régime pour être reçu à la cour. Il accueillait, avec une politesse parfaitement bien calculée, tous ceux qui lui étaient présentés. Mais, quoique les emplois ne fussent que trop souvent donnés aux ci-devant serviteurs de Bonaparte, rien n'était plus difficile que de calmer des vanités qui étaient devenues avisées. Dans la société même, l'on voulait que le mélange des deux parties eût lieu, et chacun s'y prêtait, du moins en apparence. Les plus modérés dans leur parti étaient encore les royalistes revenus avec le roi et qui ne l'avaient pas quitté pendant tout le cours de son exil. Le comte de Blacas, le duc de Gramont, le duc de Castres, le comte de Vaudreuil, etc. Leur conscience leur rendant témoignage qu'ils avaient agi de la manière la plus noble et la plus désintéressée selon leur opinion, ils étaient tranquilles et bienveillants. Mais ceux dont on avait le plus de peine à contenir l'indignation vertueuse contre le parti de l'usurpateur, c'étaient les nobles ou leurs adhérents qui avaient demandé des places à ce même usurpateur pendant sa puissance et qui s'en étaient séparés bien nettement le jour de sa chute. l'enthousiasme pour la légitimité de tel chambellan de madame mère ou de telle dame d'atour de madame sœur ne connaissait point de bornes. Et, certes, nous autres que Bonaparte avait proscrits pendant tout le cours de son règne, nous nous examinions pour savoir si nous n'avions pas été ses favoris quand une certaine délicatesse d'âme nous obligeait à le défendre contre les invectives de ceux qu'il avait comblés de bienfaits. On aperçoit souvent une arrogance contenue dans les aristocrates. Mais certes, les bonapartistes en avaient eu plus encore pendant les jours de leur pouvoir. Et du moins, les aristocrates s'en tenaient alors à leurs armes ordinaires, les airs contraints, les politesses cérémonieuses, les conversations à voix basse, enfin tout ce que les yeux fins peuvent observer, mais que les caractères un peu fiers dédaignent. On pouvait aisément deviner que les royalistes outrés se commandaient les égards qu'ils montraient au parti contraire. Mais il leur en coûtait plus encore d'en témoigner aux amis de la liberté qu'aux généraux de Bonaparte. Et ces derniers obtenaient d'eux les attentions que des sujets soumis doivent toujours, conformément à leur système, aux agents de l'autorité royale, quels qu'ils soient. Les défenseurs des idées libérales, également opposés aux partisans de l'ancien et du nouveau despotisme, auraient pu se plaindre de se voir préférer les flatteurs de Bonaparte, qui n'offraient pour garantie à leur nouveau maître que le rapide abandon du précédent. Mais que leur importaient toutes les tracasseries misérables de la société? Il se peut cependant que de tels motifs aient excité les ressentiments d'une certaine classe de gens, au moins autant que les intérêts les plus essentiels. Mais était-ce une raison pour replonger le monde dans le malheur par le rappel de Bonaparte et pour jouer l'indépendance et la liberté de son pays tout ensemble? Dans les premières années de la Révolution, on pouvait souffrir assez du terrorisme de la société, si l'on peut s'exprimer ainsi, et l'aristocratie se servait habilement de sa vieille considération pour déclarer telle ou telle opinion hors de la bonne compagnie. Cette compagnie, par excellence, exerçait jadis une grande juridiction. On avait peur d'en être banni, on désirait d'y être reçu, et toutes les prétentions les plus actives erraient autour des grands seigneurs et des grandes dames de l'ancien régime. Mais il n'existait presque plus rien de pareil sous la Restauration. Bonaparte, en imitant grossièrement les cours, en avait fini le prestige. 15 ans de despotisme militaire changent tout dans les mœurs d'un pays. Les jeunes nobles participaient à l'esprit de l'armée. Ils conservaient encore les bonnes manières qu'ils tenaient de leurs parents. Mais ils ne possédaient aucune instruction sérieuse. Les femmes ne se sentent nulle part le besoin d'être supérieures aux hommes, et quelques-unes seulement s'en donnaient la peine. Il restait à Paris un très petit nombre de personnes aimables de l'ancien régime, car les gens âgés étaient la plupart abattus par de longs malheurs, ou aigris par des colères opiniâtres. La conversation des hommes nouveaux avait nécessairement plus d'intérêt puisqu'ils avaient agi, puisqu'ils allaient en avant des événements, à la suite desquels leurs adversaires se laissaient à peine traîner. Les étrangers recherchaient plus volontiers ceux qui s'étaient fait connaître pendant la Révolution. Ainsi, sous ce rapport, leur amour-propre devait être satisfait. D'ailleurs, l'ancien empire de la bonne compagnie de France consistait dans les conditions difficiles exigées pour en faire partie, et dans la liberté des entretiens, au milieu d'une société très choisie. Ces deux grands avantages ne pouvaient plus se retrouver. Le mélange des rangs et des partis avait fait adopter la méthode anglaise des réunions nombreuses. Elle interdit le choix parmi les invités, et par conséquent diminue de beaucoup le prix de l'invitation. La crainte qu'inspirait le gouvernement impérial avait détruit toute habitude d'indépendance dans la conversation. les Français, sous ce gouvernement, étaient presque tous devenus diplomates, de façon que la société se passait en propos insignifiants et qui ne rappelaient nullement l'esprit audacieux de la France. On n'avait assurément rien à craindre en 1814, sous Louis XVIII, mais l'habitude de la réserve était prise. Et d'ailleurs, les courtisans voulaient qu'il fût de bon ton de ne pas parler politique, de ne traiter aucun sujet sérieux. Ils espéraient refaire ainsi la nation frivole et par conséquent soumise. Mais le seul résultat qu'ils obtinssent, c'était de rendre les entretiens insipides et de se priver de tout moyen de connaître la véritable opinion de chacun. Une société si peu piquante était pourtant un objet singulier de jalousie pour un grand nombre de courtisans de Bonaparte. Et de leurs mains vigoureuses, ils auraient volontiers, comme Samson, renversé l'édifice afin de faire tomber la salle dans laquelle ils n'étaient pas admis au festin. Les généraux, qu'illustraient des batailles gagnées, voulaient être gentilshommes de la chambre et que leurs femmes fussent dames du palais. Singulière ambition pour un guerrier qui se prétend le défenseur de la liberté. Qu'est-ce donc que cette liberté? Étaient-ce seulement les biens nationaux, les grades militaires et les emplois civils? Était-ce l'argent et le pouvoir de quelques hommes plutôt que de quelques autres dont il s'agit? Ou bien est-on chargé de la noble mission d'introduire en France le sentiment de la justice, la dignité dans toutes les classes, la fixité dans les principes, le respect pour les lumières et pour le mérite personnel? Néanmoins, il eût été plus politique de donner à ces généraux des places de chambellan, puisque tel était leur désir. Mais, en vérité, les vainqueurs de l'Europe auraient dû se trouver embarrassés de la vie de courtisan, et ils pouvaient bien permettre que le roi continuât de vivre dans son intérieur avec ceux dont il avait pris l'habitude pendant de longues années d'exil. Qu'importe, en Angleterre, que tel ou tel homme soit dans la maison du roi. Ceux qui se vouent à cette carrière ne se mêlent d'ordinaire en rien des affaires publiques, et l'on n'a pas ouï dire que les Fox et les Pitt fussent bien désireux de remplir ainsi leur temps. C'est Napoléon qui pouvait seul faire entrer dans la tête des soldats de la République toutes ces fantaisies de bourgeois gentilshommes qui les assujettissaient nécessairement à la faveur des cours. Qu'auraient dit Dugommier, Hoche, Joubert, Dampierre et tant d'autres qui ont péri pour l'indépendance de leur pays, si pour récompense de leur victoire, on leur eût offert une place dans la maison d'un prince, quel qu'il fût? Mais les hommes formés par Bonaparte ont toutes les passions de la Révolution et toutes les vanités de l'Ancien Régime. Pour obtenir le sacrifice de ces petitesses, il n'existait qu'un moyen, c'était d'y substituer de grands intérêts nationaux. Enfin, l'étiquette des cours dans toute sa rigueur ne peut guère se rétablir dans un pays qui s'en est déshabitué. Si Bonaparte n'avait pas mêlé la vie des camps à tout cela, personne ne l'aurait supporté. Henri IV vivait familièrement avec toutes les personnes distinguées de son temps. Et Louis XI lui-même, Louis XI soupait chez les bourgeois et les invitait à sa table. L'empereur de Russie, les archiducs d'Autriche, les princes de la maison de Prusse, ceux d'Angleterre, enfin, tous les souverains de l'Europe vivent à quelques égards comme de simples particuliers. En France, au contraire, les princes de la famille royale ne sortent presque jamais du cercle de la cour. L'étiquette telle qu'elle existait jadis est tout à fait en contradiction avec les mœurs et les opinions du siècle. Elle a le double inconvénient de prêter au ridicule et cependant d'exciter l'envie. On ne veut être exclu de rien en France, pas même des distinctions dont on se moque. et comme on n'a point encore de route grande et publique pour servir l'État, on s'agite sur toutes les disputes auxquelles peut donner lieu le code civil des entrées à la cour. On se hait pour les opinions dont la vie peut dépendre, mais on se hait encore plus pour toutes les combinaisons d'amour-propre que deux règnes et deux noblesses ont développées et multipliées. Les Français sont devenus si difficiles à contenter par l'accroissement infini des prétentions de toutes les classes, qu'une constitution représentative est aussi nécessaire au gouvernement pour le délivrer des réclamations sans nombre des individus qu'aux individus pour les préserver de l'arbitraire du gouvernement. Chapitre 11 du système qu'il fallait suivre en 1814 pour maintenir la maison de Bourbon sur le trône de France. Beaucoup de personnes croient que, si Napoléon ne fut point revenu, les Bourbons n'avaient rien à redouter. Je ne le pense pas. Mais, il faut en convenir du moins, c'était un terrible prétendant qu'un tel homme. Et, si la maison de Hanovre a pu craindre le prince Édouard, il était insensé de laisser Bonaparte dans une situation qui l'invitait, pour ainsi dire, à former des projets audacieux. Monsieur de Talleyrand, en reprenant dans le congrès de Vienne presque autant d'ascendant sur les affaires de l'Europe que la diplomatie française en avait exercé sous Bonaparte, a certainement donné une très grande preuve de son adresse personnelle. Mais le gouvernement de France, ayant changé de nature, devait-il se mêler des affaires d'Allemagne? Les justes ressentiments de la nation allemande n'étaient-ils pas encore trop récents pour être effacés? Le premier devoir des ministres du roi était donc de demander au congrès de Vienne l'éloignement de Bonaparte. Comme Caton, dans le Sénat de Rome, lorsqu'il répétait sans cesse « il faut détruire Carthage », les ministres de France devaient mettre à part tout autre intérêt, jusqu'à ce que Napoléon ne fût plus en regard de la France et de l'Italie. C'était sur la côte de Provence que les hommes zélés pour la cause royale pouvaient être utiles à leur pays, en le préservant de Bonaparte. Le simple bon sens des paysans suisses, je m'en souviens, les portait à prédire, pendant la première année de la Restauration, que Bonaparte reviendrait. Chaque jour, dans la société, l'on essayait d'en convaincre ceux qui pouvaient se faire écouter à la cour. Mais, comme l'étiquette qui ne règne qu'en France ne permet pas d'approcher le monarque, et que la gravité ministérielle, autre inconséquence pour les temps actuels, éloignait des chefs de l'État ceux qui auraient pu leur apprendre ce qui se passait, une imprévoyance sans exemple a perdu la patrie. Toutefois, quand Bonaparte ne serait pas débarqué à Cannes, le système suivi par les ministres, ainsi que nous avons tâché de le démontrer, avait déjà compromis la Restauration et laissait le roi sans force réelle au milieu de la France. Examinons d'abord la conduite que le gouvernement devait tenir envers chaque parti. Et concluons en rappelant les principes d'après lesquels il fallait diriger les affaires et choisir les hommes. L'armée était, dit-on, difficile à ramener. Sans doute, si l'on voulait garder encore une armée propre à conquérir l'Europe et à établir le despotisme dans l'intérieur, cette armée devait préférer Bonaparte comme chef militaire au prince de la maison de Bourbon. Rien ne pouvait changer cette disposition. Mais si, tout en payant exactement les appointements et les pensions des guerriers, qui ont donné tant d'éclat au nom français, on eût fait connaître à l'armée qu'on n'avait ni peur ni besoin d'elle, puisqu'on était décidé à prendre pour guide une politique purement libérale et pacifique. Si, loin d'insinuer tout bas aux officiers, qu'on leur saurait bien bon gré d'appuyer les empiétements de l'autorité. On leur avait dit que le gouvernement constitutionnel, ayant le peuple pour lui, voulait tendre à diminuer les troupes de ligne,
à transformer les soldats en citoyens
et à changer l'activité guerrière en émulation civile, les officiers, pendant quelque temps encore, auraient regretté leur importance passée. Mais la nation, dont ils font partie, plus que dans aucune autre armée, puisqu'ils sont pris dans toutes les classes, cette nation, satisfaite de sa constitution et rassurée sur ce qu'elle craint le plus au monde, le retour des privilèges des nobles et du clergé, aurait calmé les militaires au lieu de les irriter par ses inquiétudes. Il ne fallait pas viser à imiter Bonaparte pour plaire à l'armée. On ne saurait, dans cet inutile effort, se donner que du ridicule. Mais, en adoptant un genre à soi tout différent, même tout opposé, on pouvait obtenir le respect qui naît de la justice et de l'obéissance à la loi. Cette route-là, du moins, n'était pas usée par les traces de Bonaparte. Quant aux émigrés, dont les biens sont confisqués, on aurait pu, ainsi qu'on l'a fait en 1814, demander quelquefois encore une somme extraordinaire au corps législatif pour acquitter les dettes personnelles du roi. Et comme, sans le retour de Bonaparte, on n'aurait point eu de tributs à payer aux étrangers, les députés se seraient prêtés au désir du monarque, en respectant l'usage qu'il voulait faire d'un supplément accidentel à sa liste civile. Qu'on se le demande avec sincérité. Si en Angleterre, lorsque la cause des royalistes semblait désespérée, on avait dit aux émigrés « Louis XVIII remontera sur le trône de France, mais à condition de s'en tenir au pouvoir du roi d'Angleterre. Et vous, qui rentrerez avec lui, vous obtiendrez tous les dédommagements et toutes les faveurs qu'un monarque, selon vos vœux, pourra vous accorder. Mais si vous retrouvez de la fortune, ce sera par ses dons et non à titre de droit. Et si vous acquérez du pouvoir, ce sera par vos talents personnels et non par des privilèges de classe. » N'aurait-il pas souscrit à ce traité? Pourquoi donc se laisser enivrer par un moment de prospérité? Et si je me plais à le répéter, Henri IV, qui avait été protestant, et Sully, qui l'était resté, savait contenir les prétentions de leurs compagnons d'armes, pourquoi les ministres de Louis XVIII n'avaient-ils pas aussi l'art de gouverner les dangereux amis que Louis XVI avait désignés lui-même dans son testament, comme lui ayant beaucoup nui par un zèle mal entendu? Le clergé existant, ou plutôt celui qu'on voulait rétablir, était une autre difficulté qui se présentait dès la première année de la Restauration. La conduite du gouvernement doit être la même envers le clergé qu'envers toutes les classes, tolérance et liberté, à partir des choses telles qu'elles sont. Si la nation veut un clergé riche et puissant en France, elle saura bien le rétablir. Mais si personne ne le souhaite, c'est aliéner de plus en plus la disposition des Français à la piété que de leur présenter la religion comme un impôt, et les prêtres comme des gens qui veulent s'enrichir aux dépens du peuple. On rappelle sans cesse les persécutions que les ecclésiastiques ont éprouvées pendant la Révolution. C'était un devoir de les servir alors, autant qu'on en avait les moyens. Mais le rétablissement de l'influence politique du clergé n'a point de rapport avec la juste pitié qu'ont inspiré les souffrances des prêtres. Il en est de même de la noblesse. Ses privilèges ne doivent point lui être rendus en compensation des injustices dont elle a été l'objet. De même aussi, parce que le souvenir de Louis XVI et de sa famille inspire un intérêt profond et déchirant. Il ne s'ensuit pas que le pouvoir absolu soit la consolation nécessaire qu'il faille donner à ses descendants. Ce serait imiter Achille qui faisait immoler des esclaves sur le tombeau de Patrocle. La nation existe toujours, c'est elle qui ne meurt point, et les institutions qu'il lui faut ne peuvent lui être ôtées sous aucun prétexte. Quand on peint, les horreurs qui se sont commises en France, seulement avec l'indignation qu'elles doivent inspirer. Tout le monde s'y associe. Mais, quand on en fait un moyen d'exciter à la haine contre la liberté, on dessèche les larmes que les regrets spontanés auraient fait couler. Le grand problème que les ministres avaient à résoudre en 1814, ils pouvaient l'étudier dans l'histoire d'Angleterre. Il fallait prendre pour modèle la conduite de la maison de Hanovre, et non celle des Stuarts. Mais, dira-t-on, quels effets merveilleux aurait donc produit la constitution anglaise en France, puisque la charte, qui s'en rapproche, ne nous a point sauvés. D'abord, on aurait eu plus de confiance dans la durée même de la charte si elle eût été fondée sur un pacte avec la nation, et si l'on n'avait pas vu la famille royale entourée de personnes qui professaient, pour la plupart, des principes inconstitutionnels. Personne n'a voulu bâtir sur un terrain aussi mouvant, et les factions sont restées debout pour attendre la chute de l'édifice. Il importait d'établir des autorités locales dans les villes et dans les villages, de créer des intérêts politiques dans les provinces, afin de diminuer l'ascendant de Paris, où l'on veut tout obtenir par la faveur. On pouvait faire renaître le besoin de l'estime chez les individus qui s'en sont terriblement passés, en leur rendant nécessaire le suffrage de leurs concitoyens pour être députés. Une élection nombreuse pour la Chambre des représentants. 600 députés au moins, la Chambre des communes d'Angleterre en a davantage, aurait donné plus de considération au corps législatif. Et par conséquent, beaucoup de personnes honorables se seraient vouées à cette carrière. On a reconnu que la condition d'âge, fixée à 40 ans, étouffait toute espèce d'émulation. Mais les ministres craignaient avant tout les assemblées délibérantes. Et s'en tenant à leur ancienne connaissance des premiers événements de la Révolution, c'est contre la liberté de la tribune qu'ils dirigeaient tous leurs efforts. Ils ne s'apercevaient pas que dans un État qui s'est enivré de l'esprit militaire, la tribune est une garantie au lieu d'être un danger, puisqu'elle relève la puissance civile. Pour augmenter autant qu'on le pouvait l'influence de la Chambre des Pairs, l'on ne devait point s'astreindre à conserver tous les anciens sénateurs s'ils n'avaient pas des droits à cet honneur par leur mérite personnel. La pairie devait être héréditaire et composée sagement des anciennes familles de France qui lui donnaient de la dignité, et des hommes qui s'étaient acquis un nom honorable dans la carrière militaire ou civile. Les nouveaux auraient tiré du lustre des anciens, et les anciens des nouveaux. C'est ainsi qu'on aurait marché vers cette fusion constitutionnelle des classes, sans laquelle il n'y a jamais que de l'arrogance d'une part et de la subalternité de l'autre. Il importait aussi de ne point condamner la Chambre des Pairs à délibérer en secret. C'était lui ôter le plus sûr moyen d'acquérir de l'ascendant sur les esprits. La Chambre des députés, qui n'avait cependant aucun titre vraiment populaire, puisqu'elle n'était point élue directement, exerçait plus de pouvoir sur l'opinion que la Chambre des Pairs, par cela seul qu'on connaissait et qu'on entendait ses orateurs. Enfin, les Français veulent le renom et le bonheur attachés à la Constitution anglaise, et cet essai vaut bien la peine d'être tenté. Mais le système étant admis, il importe d'y conformer les discours, les institutions et les usages. Car il en est de la liberté comme de la religion. Toute hypocrisie dans une belle chose révolte plus que son abjuration complète. Aucune adresse ne devait être reçue, aucune proclamation ne devait être faite, qui ne rappelât formellement le respect pour la Constitution aussi bien que pour le trône. La superstition de la royauté, comme toutes les autres, éloigne ceux que la simplicité du vrai aurait captivé. l'éducation publique, non celle qui était confiée aux ordres religieux, à laquelle on ne peut revenir, mais une éducation libérale, l'établissement d'écoles d'enseignement mutuel dans tous les départements, les universités, l'école polytechnique, tout ce qui pouvait rendre à la France l'éclat des Lumières, devait être encouragé sous le gouvernement d'un prince aussi éclairé que Louis XVIII. C'était ainsi qu'on pouvait détourner les esprits de l'enthousiasme militaire et compenser pour la nation la perte de cette fatale gloire qui fait tant de mal, soit qu'on l'obtienne, soit qu'on la perde. Aucun acte arbitraire, et nous insisterons avec bonheur sur ce fait, aucun acte arbitraire n'a été commis pendant la première année de la Restauration. Mais l'existence de la police, formant un ministère comme sous Bonaparte, était en désaccord avec la justice et la douceur du gouvernement royal. La principale fonction de cette police était, comme nous l'avons dit, la censure des journaux, et leur esprit était détestable. En supposant que cette surveillance fût nécessaire, au moins fallait-il choisir les censeurs parmi les députés et les pairs. Mais c'était violer tous les principes du gouvernement représentatif que de remettre aux ministres eux-mêmes la direction de l'opinion qui doit les juger et les éclairer. Si la liberté de la presse avait existé en France, j'ose affirmer que Bonaparte ne serait point revenu. On aurait signalé le danger de son retour de manière à dissiper les illusions opiniâtres, et la vérité aurait servi de guide, au lieu de produire une expulsion funeste. Enfin, le choix des ministres, c'est-à-dire du parti dans lequel il fallait les chercher, était la condition la plus importante pour mettre en sûreté la Restauration. Dans les temps où les esprits sont occupés des débats politiques, comme ils l'étaient jadis des querelles religieuses, l'on ne peut gouverner les nations libres qu'à l'aide des hommes qui sont d'accord avec les opinions de la majorité. Je commencerai donc par signaler ceux qu'on devait exclure, avant de désigner ceux qu'il fallait prendre. Aucun des hommes qui ont commis un crime dans la Révolution, c'est-à-dire verser le sang innocent, ne peut être utile en rien à la France. Le public les repousse, et leur propre inquiétude les fait dévier en tous les sens. Repos pour eux, sécurité, car nul ne peut dire ce qu'il aurait fait dans de si grandes tourmentes. Celui qui n'a pas su tirer sa conscience et son honneur intact de quelque lutte que ce soit, peut encore être assez adroit pour se servir lui-même, mais ne peut jamais servir sa patrie. Parmi ceux qui ont pris une part active au gouvernement de Napoléon, un grand nombre de militaires ont des vertus qui honorent la France. Quelques administrateurs possèdent de rares talents dont on peut tirer avantage. Mais les principaux chefs, mais les favoris du pouvoir, ceux qui se sont enrichis par la servitude, ceux qui ont livré la France à cet homme qui l'aurait respecté peut-être s'il avait rencontré quelque obstacle à son ambition, quelque fierté dans ses alentours. Il n'est point de choix plus nuisibles à la dignité comme à la sûreté de la couronne. S'il est dans le système des bonapartistes de servir toujours la puissance, s'ils apportent leur science de despotisme au pied de tous les trônes, d'antiques vertus doivent-elles s'allier avec leur corruption? Si l'on voulait repousser toute liberté, mieux aurait valu alors s'appuyer sur les royalistes purs, qui du moins étaient sincères dans leur opinion et se faisaient un article de foi du pouvoir absolu. Mais ces hommes, dégagés de tout scrupule politique, comment compter sur leurs promesses? Ils ont de l'esprit, dit-on. Ah, qu'il soit maudit l'esprit, s'il dispense d'un seul sentiment vrai, d'un seul acte de moralité droit et ferme. Et de quelle utilité sont donc les facultés de ceux qui vous accablent quand vous succombez. Qu'un grain noir se montre sur l'horizon, par degrés leur physionomie perd son empressement gracieux. Ils commencent à raisonner sur les fautes qu'on a commises. Ils accusent leurs collègues amèrement et font des lamentations doucereuses sur leur maître. Enfin, par une métamorphose graduée, ils se changent en ennemis, ceux qui naguère avaient égaré les princes par leurs flatteries orientales. Après avoir prononcé ces exclusions, il ne reste, et c'est un grand bien, il ne reste, dis-je, à choisir que des amis de la liberté, soit ceux qui ont conservé cette opinion sans la souiller depuis 1789, soit ceux qui, plus jeunes, la suivent maintenant, qui l'adoptent au milieu des efforts que l'on fait pour l'étouffer. Génération nouvelle qui s'est montrée dans ces derniers temps et sur laquelle l'avenir repose. De tels hommes sont appelés à terminer la révolution par la liberté, et c'est le seul dénouement possible à cette sanglante tragédie. Tous les efforts pour remonter le torrent feront chavirer la barque. Mais faites entrer ce torrent dans des canaux, et toute la contrée qu'il ravageait sera fertilisée. Un ami de la liberté, ministre du roi, respecterait le chef suprême de la nation et serait fidèle au monarque constitutionnel à la vie et à la mort. Mais il renoncerait à ces flatteries officieuses qui nuisent à la vérité, au lieu d'accroître l'attachement. Beaucoup de souverains de l'Europe sont très obéis, sans exiger l'apothéose. Pourquoi donc, en France, les écrivains la prodiguent-ils en toute occasion? Un ami de la liberté ne souffrirait jamais que la France fût insultée par aucun homme qui dépendît en rien de l'autorité. N'entendons pas dire, à quelques émigrés, que le roi seul est la patrie, qu'on ne peut se fier aux Français, etc. Quelle est la conséquence de ces propos insensés? Quelle est-elle? Qu'il faut gouverner la France par des armées étrangères. Quel blasphème, quel attentat! Sans doute ces armées sont plus fortes que nous maintenant. Mais elles n'auraient jamais l'assentiment volontaire d'un cœur français. Et à quelque état que Bonaparte ait réduit la France, il y a dans un ministre, ami de la liberté, telle dignité de caractère, tel amour pour son pays, tel noble respect pour le monarque et pour la loi, qui écarterait toutes les arrogances de la force armée, quels qu'en fussent les chefs. De tels ministres, ne se permettant jamais un acte arbitraire, ne seraient point dans la dépendance du militaire, car c'est bien plus pour établir le despotisme que pour défendre le pays que les divers partis ont courtisé les troupes de ligne. Bonaparte, comme dans les siècles de barbarie, prétendait que tout le secret de l'ordre social consistait dans les baïonnettes. Comment, sans elles, dira-t-on, pourriez-vous faire marcher ensemble les protestants et les catholiques, les républicains et les vendéens? Tous ces éléments de discorde existaient sous des noms différents en Angleterre en 1688. Mais l'invincible ascendant d'une constitution mise à flot par des pilotes habiles et sincères ont tout soumis à la loi. Une assemblée de députés, vraiment élus par la nation, exerce une puissance majestueuse. Et les ministres du monarque, dans l'âme desquels on sentira l'amour de la patrie et de la liberté, trouveront partout des Français qui les aideront, même à leur insu. Parce qu'alors les opinions, et non les intérêts, formeront le lien entre le gouvernement et les gouvernés. Mais si vous chargez, ne cessons de le répéter, les individus qui haïssent les institutions libres de les faire marcher, quelque honnêtes qu'ils soient, quelque résolus qu'ils puissent être à tenir leurs promesses, sans cesse le désaccord se fera sentir entre leur penchant involontaire et leur impérieux devoir. Les artistes du XVIIe siècle ont peint Louis XIV en Hercule, avec une grande perruque sur la tête. Les doctrines surannées, reproduites à la tribune populaire, n'offrent pas une moindre disparate. Tout cet édifice des vieux préjugés qu'on veut rétablir en France n'est qu'un château de cartes que le premier souffle de vent doit abattre. Il n'y a que deux forces à compter dans ce pays, l'opinion qui veut la liberté et les troupes étrangères qui obéissent à leur souverain. Tout le reste n'est que bavardage. Ainsi donc, dès qu'un ministre dira que ses concitoyens ne sont pas faits pour être libres, acceptez cet acte d'humilité, pour sa part de Français, comme une démission de sa place. Car le ministre qui peut nier le vœu presque universel de la France la connaît trop mal pour être capable de diriger ses affaires.